Voici Billy Ivan Lutumba pour notre grande édition de nos informations vespérales dominicales.
Radio Capi. Oh, Capi.
Ce journal s'ouvre par cet appel du cardinal Fridolin Ambongo au peuple de la région des Grands Lacs à vivre dans l'amour et le dialogue pour arriver à une paix durable. Appel ce dimanche à Goma devant les évêques de la RDC, du Rwanda et du Burundi. Antoine Wilfried Dimelo, ministre provincial de l'agriculture et développement rural du Congo central, parle dans cette édition des inondations dans plusieurs territoires et ce qui est fait surtout en faveur des sinistrés de ces montées des eaux. Innocent Bora Ouzima, enseignant et secrétaire général académique de l'Université chrétienne bilingue du Congo, centre du Congo, UCBC à Beni, et celui que nous recevons comme invité pour ce journal. L'entretien porte sur l'implication des médias dans la réussite du programme de réinsertion communautaire des ex-combattants. Tous ensemble, suivons ce journal de Radio Okapi pour découvrir d'autres nouvelles du fin fond de la RDC. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le cardinal Fridolin Ambongo appelle les peuples de la région des Grands Lacs à vivre dans l'amour et le dialogue pour arriver à une paix durable. Il a fait cet appel ce dimanche à Goma lors de la messe qu'il a célébrée pour la paix entre les populations de la RDC, du Rwanda et du Burundi. À l'esplanade de la paroisse Notre-Dame du Mont Carmel de Goma et devant les évêques catholiques des trois pays ainsi que les représentants d'autres confessions religieuses, le cardinal Ambongo a fait une analyse de la situation des crises dans la région. Il a invité les chrétiens à travailler chacun à son niveau pour la paix. Des chrétiens qui ont aussi prié pour la paix dans les principales langues de la région. C'est un reportage de Rosalie Zawadi.
Prions pour ceux qui ont la charge de gouverner le peuple. Que les bons dieux leur...
Ici, l'intention des prières pour la paix dans la région est dite par une petite fille. Des prières pour qu'enfin cessent les décomptes des morts causés par les conflits dans la région. Plus de 12 millions les trois dernières décennies. Les conflits qui occasionnent aussi les déplacements des populations comptés en millions, sans oublier les blessés, les orphelins et autres malades mentaux. Pour le cardinal Fridolin Ambongo, la guerre n'est pas la réponse.
Tous ceux qui s'approchent à la force, aux armes, pour se faire entendre dans la sous-région, nous pouvons reconnaître aujourd'hui qu'ils ont échoué. La solution qui consiste à imposer sa volonté aux autres par la force des armes, cette solution ne portera jamais de bons fruits durables. Dans cette sous-région, nous devons cultiver la vertu du dialogue.
Un message bien reçu par les fidèles catholiques et les responsables des confessions religieuses présents. Tout en soulignant les travail pastoral de l'Église pour la paix dans les trois pays, le cardinal Ambongo a demandé au gouvernement congolais d'assumer ses responsabilités pour la sécurité de sa population. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Réagissant à l'appel du cardinal Ambongo sur la promotion des valeurs de l'amour et du dialogue pour la paix dans la région des Grands Lacs, l'imam chef d'entité islamique au Nord Kivu salue ce message. Cheikh Awazi Suleiman, qui a assisté à la messe de prière pour la paix à la paroisse Notre-Dame du Mont Carmel à Goma, promet de partager ce message du cardinal pour une grande prise de conscience dans la région. Cheikh Awazi Suleiman l'a dit au micro de Rosalie Zawadi.
Comme wa islam, tuna washukuru wa katholique, kwanza cardinal Ambongo.
Nous les musulmans, nous remercions les catholiques, en premier le cardinal Ambongo. Nous remercions aussi les autres évêques venus des pays voisins, les Rwanda et les Burundi, pour l'organisation d'une telle rencontre afin d'annoncer la paix. Le message du cardinal est très profond, car c'est vrai, la guerre n'apporte pas la paix. La guerre ne conduit même pas au développement. Si nous n'avons pas la paix, nous n'aurons pas non plus le développement dans notre pays. Nous sommes témoins de la souffrance dans laquelle vivent nos frères venus de Rutshuru et Masisi par manque de paix. C'est pourquoi l'appel qu'il vient de lancer, à notre niveau, nous allons aussi les partager et dire aux autres que c'est de notre intérêt de construire la paix, que la guerre ne nous amènera pas la paix. La guerre n'apporte que des problèmes aux Congolais.
Notez que les représentants de plusieurs églises protestantes étaient aussi présents à cette rencontre organisée par l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale. Toujours dans le Nord Kivu, Médecins Sans Frontières MSF rassure la population que ses équipes n'ont pas quitté Mouesso. Celle-ci reste présente pour aider la population à faire face à une situation humanitaire difficile. Toutes les activités médicales se poursuivent à l'hôpital général de Mouesso et dans les centres de santé appuyés par MSF, a déclaré à Radio Okapi Tchalar Tahiroglou, coordonnatrice du projet MSF à Mouesso. MSF qui reste l'unique organisation humanitaire présente dans les zones occupées ou celles des affrontements en territoire de Massissi et une partie des Rutshuru. Sifa Maguru nous en parle.
Depuis près de 6 jours, d'intenses combats ont été enregistrés dans la région de Mouesso, provoquant une catastrophe humanitaire et des dégâts humains et matériels importants. Le 25 janvier, MSF dit avoir pris en charge au moins 36 blessés, en majorité des civils, dont 15 enfants, alors que 20 personnes sont décédées à la suite des bombardements. Tchalar Tahiroglou, coordonnatrice du projet MSF à Mouesso, explique.
Pour les 8 000 personnes réfugiées au sein de l'hôpital, des abris temporaires ont été fournis. Des activités liées au renforcement de l'hygiène dans ce site ont été également mises en place pour éviter le développement de maladies hydriques. Nous avons aussi envoyé des ambulances en collaboration avec BCZ, même pendant cette période-là, pour prendre en charge toutes les blessés et toutes les urgences médicales qui peuvent se présenter pendant cette période.
MSF se dit très inquiet des conséquences que subit la population civile et appelle tous les belligérants au respect des droits humanitaires pendant les combats.
Très inquiète des conséquences pour les civils. Les blessures, manque de protection, besoin de bases non couvertes, de nouveaux déplacements. Nous avons aussi fait appel plusieurs fois pour le respect des droits internationaux humanitaires concernant les hôpitaux, les santé et les zones civiles. Nous demandons à toutes les parties au conflit à assurer la protection des civils.
Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Au Kassai Oriental, la vulgarisation ce samedi à Mbujima et de la politique nationale des actions humanitaires. Cet atelier organisé par le ministère des actions humanitaires intervient à quelques jours de la fermeture dans le Grand Kassai du bureau des coordinations des affaires humanitaires OCHA. Les responsables des services étatiques concernés par les actions humanitaires et les catastrophes, c'est des organisations nationales et internationales, ainsi que les représentants des agences du système des Nations Unies ont participé à cet atelier d'un jour. D'après le secrétaire général au ministère des Affaires humanitaires, le but de cette activité a été de faire comprendre aux services étatiques leur rôle dans la gestion des catastrophes. Alain Ieti, secrétaire général au ministère des Affaires humanitaires, s'exprime au micro d'Esther Dalafina.
Nous la vulgarisons dans ces contextes, notamment dans le Kassai, parce que, vous savez, la situation est devenue stable. Le bureau des Nations Unies en charge des affaires humanitaires doit fermer. Et c'est ce bureau qui aidait l'État dans la coordination. Maintenant, il faut que les services étatiques montent au créneau pour reprendre le travail de coordination. La première chose, c'est que les acteurs doivent connaître le rôle, les attributions, les outils qui existent, et puis les attitudes et les pratiques qui permettent d'avoir une bonne coordination. La coordination voudrait dire qu'on doit être ensemble pour identifier le besoin, on doit être ensemble pour mener les évaluations, être ensemble aussi pour mobiliser des ressources et rendre compte. Alors si cela est fait, nous avons dit que c'est la responsabilité de l'État qui doit mettre le moyen à la disposition de ses services. C'est ce qu'on appelle le renforcement de l'autorité de l'État qui va avec les capacités techniques mais aussi les moyens pour faire le travail sur le terrain.
Dans le Congo central, les fortes pluies et la crue des eaux du fleuve et des rivières ont provoqué des graves inondations dans plusieurs territoires. Les maisons se sont écroulées et les cultures ravagées dans plusieurs coins de la province. Le ministre provincial de l'Agriculture et Développement Rural qui l'affirme indique que le gouverneur de province suit de près cette situation. Selon Antoine Wilfried Dimelo, pour l'heure, un travail du dénombrement des victimes de ces inondations est en train d'être réalisé par les autorités locales et bientôt, tous ces sinistrés recevront une assistance. Écoutons le ministre provincial de l'Agriculture du Congo central, Antoine Wilfried Dimelo, dans ses propos recueillis par Nana Plurich Mambou.
Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la province ainsi que la montée du niveau des eaux du fleuve Congo ont provoqué des graves inondations de longue durée qui ont eu pour conséquence, entre autres, la dévastation des cultures situées le long des rives, des rivières et du fleuve, l'écroulement des maisons dans certains villages, cités et villes, car du territoire de Madimba. La rivière Makumbuka est sortie de son lit, dévastant ainsi tous les champs situés de part et d'autre de ses dérives. Les dégâts sont énormes. Des territoires de Mbandangungu, Destruction des cultures dans les secteurs ci-après. Secteur de Boko, secteur de Gombe Sud. Maintenant, pour le territoire de Mwanda, ici, c'est seulement les habitations qui ont été le plus touchées. Pour le territoire de Luozi, il y a d'abord la cité de Luozi et son interland qui ont été touchés par la montée du eaux de la rivière Luozi, provoquant ainsi aussi la dévastation des cultures. À tous les agriculteurs victimes des inondations, sur instruction de son excellence, monsieur le gouverneur de province, le docteur Gibandou Ndoumidi, les évaluations de ces dégâts sont en cours et la province verra dans quelle mesure elle pourra venir en aide à sa population victime de dites inondations.
Hausse du prix de la taxe d'étalage dans les marchés de la ville de Matadi au Congo central. Les vendeuses du marché Mwandu ont manifesté ce samedi devant la mairie contre cette augmentation. Elles dénoncent le fait qu'à la demande des bourgmestres des trois communes de la ville de Matadi, le prix de cette taxe d'étalage passe de 200 francs congolais à 400 francs d'ici le début du mois de février. Léon Zabolé, coordonnateur adjoint des marchés de Matadi, fustige cette mesure, laquelle sape les efforts du chef de l'État d'améliorer le social des Congolais. Le point avec Nana Plus Riche Mambo.
Ce sont des vendeuses du marché Mwandu qui poussent ces cris devant les bâtiments de la mairie de Matadi. Ainsi, elles demandent l'implication de l'autorité urbaine pour surseoir la décision de bourgmestre révisant à 400 francs congolais le prix de la taxe d'étalage jadis payée à 200 francs. Pour Léon Zabolé, coordonnateur adjoint du marché de la ville de Matadi, le fait de hausser cette taxe ne vient non seulement accentuer les difficultés de la population, mais également de faire insulter les chefs de l'État qui tient à l'amélioration des conditions socio-économiques de ses compatriotes.
Nandenge ba matchi taxi wana biso toza d'accord te comme matawi et comme mata 250 300 francs ba ko doubler ngote et puis ça passe kala mingi te to tsa la ba élection le lo président de la république na sali gouvernement te me ba bandi ko matsa ba taxi boy.
Signalons que outre les frais de la taxe d'étalage, ceux qui exercent les activités commerciales dans les marchés de la ville de Matadi payent encore la taxe d'assainissement. Selon Léon Zabolé, la décision de la hausse ou non des taxes dans le marché de Matadi devrait être prise par les conseillers municipaux élus qui seront bientôt installés. Matadi, Nana Plus Riche Mambu, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, installation ce week-end du dépôt pharmaceutique. Il s'agit de Shalina Elfka, cette société installée déjà dans 21 pays d'Afrique, selon son directeur régional, vient au Maniema faciliter la population de cette partie du pays à accéder aux produits de bonne qualité pour son bien-être. Pour l'autorité provinciale, ceci s'inscrit dans le cadre de la vision du chef de l'État, celle de la couverture santé universelle. Un reportage de Florence Kiza.
Pour le directeur régional Mouchop Chalina, sa société vise l'accès à des soins de santé de qualité et droit pour tous les Africains afin de mener une vie saine et productive en contribuant à la croissance sociale et économique de la communauté.
Chalina Healthcare, notre mission c'était répondre aux besoins de santé des Africains. On reste fidèle à nos principes fondamentaux. Premièrement, c'est la qualité parce que nous essayons de faire toujours conformer aux normes BPF et aussi l'OMS. Nous permettons à tous les Africains d'accéder à des médicaments de qualité et aussi disponibilisés au plus près de notre client final à un prix abordable.
Tout en promettant l'accompagnement du gouvernement provincial, le représentant de l'autorité provinciale invite les services concernés à veiller sur la qualité de médicaments. Docteur Assoumani Mankunku.
Nous vous demandons de pouvoir continuer à aider notre province en assurant et en disponibilisant les produits de qualité au bien-être de la population. Nous demandons par ricochet à l'inspection provinciale de la santé de pouvoir veiller sur l'assurance qualité parce que les derniers consommateurs de ces produits, c'est la population.
Signalons que la Chalina vient de s'ajouter dans la liste des trois dépôts pharmaceutiques installés au Maniema. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le président de la République centrafricaine Faustin Archange Touadéra a rencontré le pape François samedi au Vatican. Touadéra a profité de son voyage en Italie à l'occasion d'un sommet entre Rome et les nations africaines pour faire cette visite. Lors de leur rencontre, les deux hommes ont discuté de la situation sociale, politique et humanitaire en République centrafricaine dans l'espoir d'une coopération de plus en plus efficace au niveau international pour le bien commun de la nation. Les relations entre le Saint-Siège et la République centrafricaine ont également été abordées, ainsi que le rôle important joué par l'Église catholique au sein du pays. Au Kenya, les apiculteurs délaissent le miel pour récolter le venin des abeilles. Il existe même un marché local lucratif où le venin se vend à $30 pour des traitements thérapeutiques. Dans ce pays, ce produit gagne en popularité. En effet, l'apithérapie est bien accueillie au Kenya. Les thérapeutes alternatifs explorent son potentiel médicinal et cette pratique est même enseignée dans les institutions gouvernementales. Aussi appelée apitoxine, cette substance est extraite à l'aide des collecteurs de venin d'abeilles. L'avantage est que le processus n'est pas mortel pour ces insectes.
L'invité.
Notre invité, c'est Innocent Bora Ouzima, enseignant et secrétaire général académique de l'Université chrétienne bilingue du Congo ICBC à Beni. Il y a quelques jours, le PDDRCS, programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, a organisé à Beni un atelier sur l'implication des médias dans la réussite du programme de réinsertion communautaire des ex-combattants. Quel doit être le rôle des journalistes dans le changement de comportement des populations dans une zone comme Beni pour faciliter la réinsertion des ex-combattants dans la communauté? Innocent Bora Ouzima, qui était l'un des orateurs à cet atelier, répond dans cet entretien qu'il a accordé à Guylaine Kassassia.
Bora Ouzima, bonjour.
Bonjour, madame la journaliste.
Communication pour le changement des comportements, c'était le thème de votre exposé. Pourquoi cette thématique?
Le thème de la communication pour le changement des comportements ou alors communication pour le changement social et comportemental est un thème important à partager avec les acteurs, comme des journalistes et d'autres acteurs parties prenantes d'un projet d'intégration sociale ou de cohabitation sociale. Il faut que les acteurs ou les parties prenantes à un tel projet de réinsertion sociale puissent savoir manipuler non seulement la langue, mais aussi tous les langages ou tous les signaux de communication qui participe à favoriser l'acceptation des ex-combattants qui doivent réintégrer la société, mais aussi qui favorise l'acceptation de ces ex-combattants qui sont le bénéficiaire du projet à réintégrer la société, à accepter de se désengager des groupes armés et réintégrer la société. C'est quand on communique bien une communication qui affecte, qui influence la personne à abandonner un comportement qu'on considère négatif et adopter un comportement qui est considéré, qui lui est proposé comme positif pour l'intégration sociale, pour la cohabitation pacifique, qu'on aura atteint les objectifs de la communication.
Dans la zone comme Beni, pensez-vous que les journalistes soient mieux placés pour y arriver?
Dans la zone de Beni et environ, les journalistes ont expérimenté beaucoup de situations, des conflits, des guerres et d'insécurité. Et même, ils ont été témoins de beaucoup d'atrocités. Et il n'y a que eux qui ont couvert tous ces événements-là, qui connaissent un peu la réalité, les tempéraments ou la température de la vie, des perceptions des gens dans le milieu par rapport à tout ce qu'ils ont vécu, qui peuvent encore savoir comment communiquer avec ces gens, avec la population, pour exposer des situations qui peuvent contribuer à la paix, à la sécurité, à la stabilité dans le pays. Les journalistes qui connaissent cela doivent être des agents qui contribuent à l'intégration sociale, c'est parmi les missions des journalistes, à la sociabilité, mais aussi à la cohabitation pacifique. Je crois que ce sont des personnes bien appropriées pour utiliser les méthodes, les techniques, les stratégies, les tactiques de communication pour les changements sociaux et comportementaux afin d'influencer la société à s'accepter mutuellement et à accepter la réintégration sociale des ex-combattants.
Lorsque vous parlez de tactiques, de méthodes, c'est quelle méthode par exemple?
Il y a beaucoup de tactiques dans la communication pour les changements sociaux et comportementaux. Par exemple, le marketing social. Pour influencer la société, vous faites la promotion d'une action qui est positive, qui est profitable à tous. Il y a des techniques de communication de masse que les journalistes utilisent tous les jours pour informer la communauté, mais aussi il y a des tactiques de réseaux sociaux et il y a beaucoup d'autres tactiques qu'on peut utiliser.
Concrètement, qu'est-ce que vous attendez de médias pour faciliter la réinsertion communautaire des ex-combattants?
Ce que nous attendons de médias après cet atelier de formation sur la communication pour les changements des comportements, c'est d'abord que le média ou les journalistes réalisent qu'ils sont des agents des communications qui doivent appliquer le journalisme sensible
au conflit. Le journalisme sensible au conflit, c'est un journalisme qui contribue à la paix, qui promeut la paix, la cohabitation, et ce qui profite à tout le monde. Ce n'est pas un journalisme qui accentue les conflits. Si le journaliste s'approprie cela, et c'est très important que le langage, le style, le concept et même le rythme des transmissions de messages soient adaptés à la sensibilité des questions de paix et de cohabitation pacifique, et c'est très important que les journalistes soient capables de les faire connaître et faire comprendre et promouvoir cette action positive de la population d'accepter les ex-combattants dans la société.
Bora Ousima, nous vous remercions.
C'est moi qui vous remercie, madame la journaliste.
Merci à Billy Ivan Lutumba. Merci, cher ami auditeur. Bienvenue à la quatrième et dernière heure, la partie interactive.
Je fais appel à notre gouvernement. Il doit comprendre que nous défendons l'honneur de ce grand pays. On n'a pas le droit d'humilier ce pays. Nous avons des ressources qu'il faut pour défendre jusqu'à notre temps l'honneur de ce pays.
Comment expliquer que dans ce pays, en Afrique, deux clubs de dimension que sont Vita Club et Mazembe, l'un échoue en finale, l'autre remporte cette coupe-là? Bon, la RDC, il y a tellement de paradoxes, mais quand on a une victoire aussi probante que celle de Mazembe, je crois qu'il faut s'en réjouir parce que c'est énorme, c'est prodigieux, c'est exceptionnel.
Et on se pose la question, avec tout ce qui se passe autour de notre sport, ça sera pour quand? Le démarrage? Le redémarrage? C'est regrettable pour nous.
On capisse pas.
Chaque dimanche, de 15h à 19h, hors de Kinshasa.
Quatrième, huitième des finales de la CAN Côte d'Ivoire 2024. L'Égypte reçoit ce soir au stade Laurent Pokou de San Pedro, la République démocratique du Congo, Pharaon contre Léopard. Tout de suite, nous en parlons avec vous, chers amis auditeurs. Qui aura à sortir qui? Notre invité dans ces studios, c'est Delphin Kikuni. Monsieur Delphin Kikuni, qu'en pensez-vous? Quelles sont pour vous les chances de la République démocratique du Congo pour sortir l'Égypte?
Merci beaucoup. Les chances sont énormes. Et d'abord, à ce stade du match, comme je l'ai dit au début de cette émission ici, on n'a que deux résultats. Et le résultat qui nous intéresse, c'est la victoire. Pour gagner, premièrement, il faut éviter de concéder un but. Mais deuxièmement aussi, et ça, il faut l'avouer, on a une très belle ambiance dans l'animation offensive. On a une belle ambiance. Il nous reste seulement de trouver un finisseur. Donc, quelqu'un qui va porter la responsabilité, qui va porter le destin. On a vu les matchs qu'on a joué en face du groupe. Lorsqu'on menait l'attaque, on y allait, mais seulement des gâchis au niveau des derniers gestes. Donc, je crois que l'entraîneur, on attend la recette qu'il va nous présenter, s'il a pris cela en compte. On a vu le match qu'il a joué contre la Tanzanie, qui était un match tactique, où on n'avait pas besoin de biceps, on n'avait pas besoin de prouesses, on avait besoin de conserver et de garder la Tanzanie. Parce qu'il fallait conserver la Tanzanie et il a réussi. Mais ici, nous sommes en train de jouer la qualification et pour être qualifié, il faut marquer des buts. Il faut nourrir cette animation de la ligne offensive et la concrétiser. Il faut absolument qu'il puisse désigner quelqu'un qui va porter la responsabilité de la République démocratique du Congo. On a connu des avant-centres qui portaient ce pays ici, qui portaient cette équipe et maintenant le rôle que devrait jouer Bakambu. Malheureusement, il y a eu des ratés. On ne peut pas lui en vouloir pour ça. Il a eu à faire de bonnes choses pour ce pays. Il a eu à nous rendre très joyeux dans ce pays ici. On doit être reconnaissant. Et je vois que c'est pas c'est qui à qui il va donner cette responsabilité, mais également exploiter à temps réel notre banc, qui est très riche. Il faut vraiment l'utiliser. Il ne faut pas courir derrière le but. Il faut déjà commencer à marquer les buts dès l'entame. Et pour marquer les buts, il faut finaliser tout simplement cette animation. Parce que ce n'est pas la galerie. Maintenant, là, ce n'est pas la galerie, ce sont des objectifs. C'est vrai que notre coach s'était fixé l'objectif d'aller en quart de finale. L'occasion lui est donnée de nous amener en quart de finale. Parce que si nous franchissons cette étape-là, la vérité, c'est que en demi-finale, on pourra facilement... On sait déjà notre prochain adversaire entre les deux Guinées en quart de finale. Ce sont des équipes qui sont prenables. Même si la Guinée équatoriale a étrié l'équipe, le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, on a vu ce match et je crois que l'autre coach pourra aussi intérioriser cela et nous permettre d'aller en demi-finale. Pourquoi pas gagner cette coupe qui est à notre portée.
La coupe est un autre trophée et les Léopards ne sont pas seuls. Il y a une forte mobilisation, solidarité nationale. Les Léopards boxe soutiennent aussi les Léopards football. C'est le cas de Yves Ngabou qui est le champion du monde congolais de l'International Boxing Organization dans la catégorie des lourds légers. Lui aussi souhaite bonne chance aux Léopards de la République démocratique du Congo, tout en attendant son combat pour la défense de son titre au mois de mars prochain ici à Kinshasa.
Bonjour à tous. Je fais ce message pour d'abord féliciter et remercier le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour son deuxième mandat. Je veux aussi remercier le ministre des Sports, son Excellence Kabulo Mwana Kabulo, et le président de la Fédération de la boxe congolaise, le général Ilunga Luyoyo, pour me donner l'opportunité de venir au pays et de défendre ma ceinture au pays. Je vous remercie beaucoup. Balamboka, Nasefeli Mbingi, Nazalaki Kozela, Moma Oyo, Bandakala. Nazalaki Kozela, Moma Oyo, Bandakala. Donc, la paix singolo et pas en Zambé, qu'on a pour Pesanga et Moma Oyo. Moma Oyo et Zoya, la paix si Beda, Penza Golo et pas en Zambé. Et j'espère que mon avino nombreux Kuna, na l'air na Kopunda Kuna. J'espère que mon avino nombreux Kuna. Et aussi le dernier message na ligne pour Pessa, les Léopards, l'équipe de foot, les Léopards, demain, nous sommes tous derrière vous. Moi, je crois à la victoire, nous sommes tous derrière vous et nous sommes là pour vous pousser droit au but. Force pour demain, les gars.
Voilà, là c'était le message du champion du monde congolais des lourds légers, Yves Ngabou, dans la boxe bien entendu, et aussi les big managers Tariq Saadi a également souhaité bonne chance aux Léopards de la République démocratique du Congo.
Bonjour Dieudonné, j'espère que tu vas bien mon frère. Voilà un message de Yves Ngabou, champion du monde IBO des lourds légers, qui est actuellement en Afrique du Sud et a commencé son camp d'entraînement en vue de la défense de son titre à Kinshasa, fin mars. Il en profite pour saluer la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi remercier le ministre des Sports, François Mwana Kabulo Mwana, pour son soutien à la défense de son titre à Kinshasa. Ainsi, bien sûr, que le président de la Fédération congolaise de boxe, le général-major Ferdinand Ilunga Luyoyo, pour son soutien et sa collaboration dans la suite de sa carrière. Voilà, donc il en profite aussi tout particulièrement pour soutenir les Léopards Foot pour leur match contre les Égyptiens dimanche pour la qualification en quart de finale. Voilà. Dieudonné, grand journaliste, à très vite mon frère, et merci à Radio Capi. Oui Dieudonné, merci mon frère. Écoute, l'adversaire n'est pas encore désigné. L'IBO ne fonctionne pas comme la WBC et les autres fédérations. Ils ont un classement unique avec un top 100 et pas un top 40. comme la WBC. Et après ça, dans cette option, par contre, eux, ils n'ont